Nous revoilà, deuxième partie d'émission. Et tout à l'heure, tu parlais d'un thriller. Eh bien, je vais vous parler de quelque chose qui pourrait ressembler à un thriller, qui pourrait être du thriller, mais qui n'est pas du thriller. Ça s'appelle « Un fantôme dans la tête ». C'est un roman écrit par Alain Gagnol, qu'on avait non pas oublié, mais qu'on attendait depuis longtemps. C'est un livre qui est paru aux éditions Le Passeur, collection Rive Noire. C'est un livre qui est sorti en septembre. Et tout de suite, une citation. « Les yeux sans paupières, le nez et les oreilles découpées, les lèvres arrachées, la longue rangée de dents qui transformait le visage d'une jeune fille en monstre terrifiant. » Voilà de quoi donner la chair de poule, frissonner, se faire peur. En anglais, « to thrill », le thriller. Sauf que l'on est dans l'univers d'Alain Gagnol et que chaque scène d'horreur, chaque angoisse, distillée savamment par l'écrivain, va être à chaque fois légèrement décalé, juste un peu, juste pour transformer ce qui serait un banal polar à serial killer en un roman noir complètement baroque. Ainsi, Marco Benjamin, le flic qui trouve le cadavre de la jeune fille mutilée, Jennifer, va évidemment forcément péter les plombs, disjoncter. Surtout que, en tant que banal personnage de polar en 2014, il traîne quelques casseroles derrière lui, dont un divorce récent. Mais pourquoi devenir simplement neurasthénique ou névrosé, alors qu'on peut se prendre pour un super-héros de ses comics préférés et endosser le t-shirt de Suicide Man, l'homme qui ne peut se suicider tellement ses pouvoirs sont grands. Pouvoirs d'ailleurs tout aussi grands que ceux d'Ismaël, le mage dont les visions ont permis de retrouver la suppliciée. En rupture avec les autres flics et surtout avec son supérieur, Marco va être aidé d'une jeune paumée, admiratrice du super-héros Suicide Man. Cette jeune paumée s'appelle Elsa, et à eux deux, ils vont tenter de retrouver le serial killer. Le fantôme de Jennifer hante complètement Marco, et son obsession, entre deux séances de psy, parenthèse, lequel psy commence à se passionner pour Batman et Superman. Évidemment, ce qui va arriver à Marco, c'est qu'il veut absolument empêcher un nouveau massacre d'adolescente. Mais quand on est juste un simple mortel, sans kryptonite ni mutation spéciale, la tâche n'est pas aisée. Sauf que, évidemment, bien évidemment, le méchant, celui d'en face, il a plus d'un tour dans son sac. Alain Gagnol joue vraiment sa partition avec beaucoup de talent. Du sang, de l'action, du suspense. Puis, au détour de la vie mouvementée de Marco, l'absurde, le baroque, le foutraque, qui prennent le pas sur la raison et la logique, sous de multiples formes. Un tableau qui passe, un chien, une femme fatale, un accouchement. La scène la plus gore nous fait sourire. Tous les boules d'hume traquées par l'auteur sont tordues, retravaillées, ripollinées. On pourrait presque employer le mot pastiche, mais roman noir, il y a de la première à la dernière page. Donc je rappelle, ça s'appelle « Un fantôme dans la tête » et l'auteur, que l'on est ravi de retrouver après quelques années de silence, s'appelle Alain Gagnol. Voilà, check.
Un petit peu de musique d'un groupe que vous connaissez certainement, puisqu'il a 50 ans de carrière au moins. C'est Status Quo, c'est les rois, les papis du boogie anglais.
Mais non, ils sont pas papis, ils sont jeunes, ils
et
sont
voilà. Et bien pour prouver qu'ils sont jeunes, d'abord, sur leur nouveau disque, ils posent à poil, avec leurs instruments qui cachent leurs instruments. C'est donc de belles guitares.
J'ai pas été voir la couverture.
De belles
encore.
Guitares acoustiques, parce qu'en fait, c'est un album de reprise de leur propre tube, mais en version acoustique. Alors, on pouvait quand même super craindre le résultat. Et à part quelques violonneries qu'ils ont rajoutées, dont on aurait vachement pu se passer, eh ben, c'est plutôt bien. Et là, on va se mettre un de leurs tubes. On aurait pu mettre Whatever You Want, mais non, on met Caroline, que notre technicien préféré derrière la vitre serait capable de vous jouer s'il avait une basse dans les mains au lieu d'avoir tous les petits boutons qu'il doit manipuler pour faire cette émission si bien faite. Caroline, Status Quo acoustique.
If you want to turn me on to now anything you really want to turn me on to your love, sweet love. The night time is the right time. Now anytime of yours is my time. We can find time for love, sweet love. Come on, sweet Caroline, you're my together we can rock and roll.
C'était la belle Caroline de Monsieur Rossi.
Ah là là, un peu plus notre technicien, il ne nous rendait pas la parole, dit. Voilà, eh bien nous accueillons maintenant Frédéric Prieux. Frédéric Prieux, bonsoir, ravi de vous retrouver.
Bonsoir Corinne.
Alors, on va parler bulles ?
Oui, oui, bulles de champagne.
Bulles cases.
Voilà. Donc, eh bien, c'est pas compliqué. En ce jour où le prix Goncourt va au roman « Pas pleurer » de Lydie Salvaire,
Quel à propos, mais quel à propos.
Je me permets, moi, d'écraser une petite larme en l'honneur d'Anne Bonny, directrice de la collection Hostile Holster pour les éditions Altama, non pas parce qu'Anne Bonny n'est plus de ce monde, mais parce qu'elle vient juste de les quitter, et je trouve toujours un petit peu triste de voir partir des gens qui font du bon boulot, et justement, Audrey Bonneson, c'était son vrai nom, parce qu'Anne Bonny, c'est un pseudo, a fait de l'excellent boulot à la tête de la collection Hostile Holster d'Altama depuis 2011, et un petit hommage à lui rendre, je trouvais ça pas mal, surtout que, figurez-vous, chers amis, que je me suis rendu compte que j'ai à peine parlé d'Hostile Holster depuis que je suis invité, et grâce à vous, depuis 2011 aussi, sur Noir.
Pratiquement pas, oui.
Ouais, hein, c'est pas, donc coupable oubli. Donc je répare aujourd'hui en vous listant, je vais vous parler de quelques-uns de mes albums préférés estampillés d'Hostile Holster. Alors, ce que je voulais déjà vous dire, c'est que là, pour situer un peu la collection dans le paysage éditorial, n'est-ce pas, il faut se souvenir, Bancama, c'est plutôt à la base un groupe de création numérique qui font dans le jeu vidéo, du genre Dofus et Wakfu, vous voyez, hein, vous y jouez tous les jours, je suis sûr.
C'est-à-dire qu'à la radio, on ne voit pas vraiment, mais on s'imagine, quoi, hein, on s'imagine.
Voilà, oui, la radio, on voit pas, mais bon. La branche édition, c'est plutôt du manga, mais alors, aussi Holster, c'est un tout petit rameau de Bancama, qui fait un peu figure d'ovni, à tel point que les amateurs de BD noir, ils n'avaient même pas remarqué que ça existait au tout début. Parce qu'il y a 4 à 6 titres par an, et ce qui fait que au moment où je vous parle, le catalogue est constitué de 19 volumes et de 12 titres, c'est-à-dire qu'il y a des séries avec plusieurs tomes. Donc voilà, donc la quasi-totalité de ces albums sont au format comics, cartonné, pour vous situer aussi le type d'album que c'est, et au niveau du contenu, c'est là tout l'intérêt, moi je trouve, de la collection, c'est que c'est un éclectisme assumé, mais toujours dans la grande famille, on va dire, du polar. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, je vais vous parler donc de mes titres qui sont, on en dit, vraiment, vraiment importants, et je commence en fait par ceux d'un duo qui s'appelle, le duo s'appelle Chat, pour la dessinatrice, et El Diablo pour le scénariste. Et le premier album, celui que je voudrais peut-être parler, c'est Pizza Road Trip, qui était paru en 2012, et qui raconte le périple d'un trio de jeunes, deux hommes un peu nerveux, et puis une jeune femme débrouillarde, qui sont en route vers l'ouest,
normal.
À bord, ouais, à bord d'une Congo rouge et avec dans le coffre un cadavre un peu encombrant. En fait, on est un peu entre Pulp Fiction et The Big Lebowski et on est embarqué dans une épopée tragicomique, burlesque et tendue à la fois, avec une succession d'événements trépidants que Charles met en image avec un style très cartoon et qui va vraiment bien avec le ton déjanté de l'album. C'était vraiment une des BD des années 2012. Bizarre Trip, voilà. Et le duo, pourquoi je vous parle de cet album-là? Parce que le duo vient de sortir là, juste en septembre, un album qui s'appelle Mise en bouche, qui est le premier tome d'un diptyque intitulé, lui, Un homme de goût. Alors là, c'est encore plus fort, parce qu'on a affaire à un criminel qui tue depuis si longtemps, qu'on devine assez vite qu'on est face à un être hors du commun. Et El Diablo, donc c'est le scénariste, hein, pas le tueur, a ni plus ni moins revisité la figure, non pas du cannibale, comme le laisse présager la couverture de l'album, comme vous la verrez, parce que là, on est à la radio, effectivement, on ne la voit pas, mais en fait, il a mis en scène l'ogre des contes de nos enfants. Alors, c'est super bien foutu, parce qu'on suit la carrière du monstre à travers les âges, qui est traqué par une policière actuelle, mais bon, elle a remonté tout son passé, avec différents styles narratifs et graphiques. C'est vraiment, vraiment étonnant.
Et donc, on a la lisière du fantastique, là.
Ouais, exactement, celui-ci, voilà, c'est pour souligner l'éclectisme que peut avoir entre le truc un petit peu Tarantino d'avant et puis ça, c'est fantastique, voilà. Voilà, et ça s'arrête donc sur un cliffhanger, comme on dit en Amérique, avec la suite au prochain numéro, c'est un chouette diptyque. Un autre diptyque qui avait lancé le label, qui est excellent aussi, ça s'appelle We Are the Night, c'est de Dozanam au scénario et de Kiran au dessin. Donc là, dans cette histoire, on croise en fait 19 personnages, rien que ça, dont le destin va s'écrire de 20h à 8h du matin, le lendemain, dans la nuit et dans la moiteur de la ville de Lyon. C'est assez étonnant parce que c'est une BD chorale, comme on dit, comme peut y avoir des films, comme ça. Et c'était estampillé noir et urbain, comme disait le teaser de l'époque, il y avait un petit teaser sympa, et il n'y avait pas tromperie sur la marchandise, c'était vraiment ça, noir et urbain, et on pouvait même ajouter avec une bande-son du meilleur goût, parce que les planches sont ponctuées de standards du rock. Alors là, Jacques, faut que vous disiez ça absolument, cher ami, parce que ça vous parlera.
Je pensais que c'était du punk, moi.
Ah ouais, mais non, c'est carrément du rock, là. Alors, il y a une vraie ambiance dans Where the Night, une vraie force dans les personnages, et puis qui fait qu'on s'intéresse à chacun, là, il y a 19, hein, chacune, et ça fait très French comique avec le découpage, le format, le titre en VO, non sous-titré, We Are the Night. Et ouais, ça, c'est une super réussite des débuts de Steel Holster.
Et puis en plus, excusez-moi, je vous interromps, mais il y a le schéma du roman classique, un peu, avec unité de temps, unité de lieu. C'est intéressant.
Oui, exactement. C'est ce schéma-là, et c'est maintenu tout le long. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien fait. Le dernier diptyque dont je voulais vous parler, c'est Maori. Maori, qui reprend l'univers de la saga Maori Aka et Utu, publié par Kai Ferret, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, dans la série noire. Et là, son personnage, c'est Jacques Kenu, qui est un mélange des deux héros des romans en cité, là, dans une Nouvelle-Zélande qui est en proie au chaos du capitalisme financier. Donc c'est sa première incursion dans la BD. À Michael Ferret, et on reconnaît sa patte, hein, sa griffe même. Les personnages sont forts, bien cabossés par la vie, et dans le scénario, comme dans les romans, la culture maori est omniprésente tout au long de l'enquête. Alors la dimension politique est également là, et là on est fidèle à ce que peut écrire Carrie Ferret. Et pour la mise en image de cette histoire, il était associé à un Italien qui s'appelle Giuseppe Camuncoli, et qui est en fait un artiste arrangé plutôt dans la famille des comics américains, puisque en fait il travaille entre autres sur des séries comme Hellblazer ou Spider-Man, vous voyez. Donc toujours est-il que son très nerveux, il colle très très bien cet univers de Carrie Ferret, et que là les couleurs sont très très bien rendues. Et alors avec une histoire évidemment très très glauque. Donc ça c'est Maori en deux volumes aussi, toujours chez Ankama, dans cette belle collection Austin Holster. Je vais vous parler de trois one-shots, là, maintenant. Il y en a qui s'appelle Sintitulo. Et Sintitulo, c'est le plus étonnant des albums qu'ils ont fait paraître. Sintitulo, c'est un album au format italien, celui-ci. Donc là, on a fait l'histoire d'un type qui s'appelle Alex McKay, qui est un jeune homme assez effacé, qui rend visite à son grand-père à la maison de retraite. Sauf que quand il arrive, c'est assez déstabilisant parce que le grand-père en question est mort depuis un mois, et tout ce qu'on lui donne comme souvenir, c'est une boîte en carton. Et à l'intérieur de la boîte en carton, Alex découvre une photo d'un Robert McKay, donc son grand-père souriant, jeune, avec une belle et mystérieuse blonde, la lunette noire à dents à ses côtés. Donc, en légende, visite de D1305. Alors, il milite cette unique indice, il essaye d'identifier la jeune femme, et petit à petit, il va se retrouver pris dans un tourbillon aux accents presque kafkaïens, et à tel point que les héros paumés de Campan Seward, l'auteur, ils pourraient très bien être dans Mulholland Drive, tant la réalité qui est la sienne passe son temps à se distordre, c'est très très étrange. On suit, il est en quête de vérité comme dans un long rêve, et son petit tout s'ouvre d'ailleurs sur un prologue en forme de songe récurrent qu'on voit donc tout au long de l'album. Ça se termine, se termine par une case noire, et entre ces deux cases, il y en a 1278 autres, je sais pas, parce que c'est toujours le même principe de 6 cases par planche, et en bichromie c'est ça. Et ça fait un rythme lancinant, et voilà, on est dans un univers très 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 étrange, David Lynch, quoi, Lynchien. Mm. Voilà, Sin Pitulo, de Cameron Stewart. Pour deux autres one-shots...
Allez, on a le temps, on y va, ouais, deux autres.
Voilà, deux autres, c'est plus court, là, parce que je vous les décris simplement, ça passe au XXe siècle... tous les deux, mais ils ont un aspect réel, on va dire, pris avec leur tête, puisque le premier s'appelle Mafia Tabloïd, des Italiens Rizzo et Bonacorso. Là,
des Italiens, ça alors, et... Mafia.
Avec Mafia, quelle étrange chose, n'est-ce pas? Donc, c'est la destinée de Peppino Impastato, alors pardonnez l'accent, qui était un journaliste engagé et populaire, fondateur du journal L'Idea Socialista, qui s'était imposé dans les années 70 comme symbole de la lutte anti-mafia. Donc, en fait, il avait, à force de faire des accusations de plus en plus gênantes pour la Cosa Nostra, le journaliste en question s'était fait assassiner et il n'avait reconnu ce que la Cosa Nostra avait reconnu en 2002 quand même. Donc, c'est un album en noir et blanc qui a un aspect humoristique qui n'est pas le thème principal de l'album, mais qui, parce que le journaliste en question titillait par l'humour la mafia, et c'est sa vie qui est racontée. C'est assez bien fait. C'est pas le meilleur album qu'ils ont publié dans la collection, mais il vaut le détour. L'autre, pour finir, je finirai avec un album qui s'appelle Le Tueur de la Green River, de Jeff Jensen au scénario et de Jonathan Case au dessin. Alors là, c'est simple, vous avez tout dans le titre, puisqu'il s'agit de la BD sur celui qui était dans les années 80 la cible prioritaire de la police de Seattle, le fameux tueur de la Green River, qui est le surnom du meurtrier à l'époque d'une douzaine de femmes en 80. Et en 90, alors que le nombre s'était élevé à au moins 48 victimes, on a remis l'affaire dans les mains d'un seul détective, parce que ça piétinait trop, Tom Jensen, et après 20 ans, ils ont confondu, on va dire, un certain Gary Ridgway grâce à son ADN. Et l'album, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'interrogation par Jensen, une fois qu'il était arrêté, donc le fameux serial killer, pendant 180 jours de ce tueur. Donc c'est un peu un traitement...
Oui, c'est original de traiter cette...
Oui, parce que, en fait, c'est beaucoup plus du documentaire et de l'autobiographie que de la fiction. À tel point que, de toute façon, le scénariste, c'est le fils de l'enquêteur. Vous voyez un peu un petit peu pourquoi il a dû baigner avec son père dans l'affaire pendant des années. Et il en a fait une étude d'un psychopathe sur 200 pages noir et blanc. C'est pas du tout spectaculaire, mais c'est complètement prenant. Un petit peu comme Toilette, c'est un petit tout dans un autre genre. Donc, un album vraiment, vraiment original. Donc voilà.
C'est une performance d'avoir pu parler de tous ces albums en une dizaine de minutes.
Et une question, la collection continue malgré le départ de
directrice. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire, Jacques. Je vous renvoie pour une fois, c'est moi qui le fais directement sur BD Player, parce qu'il y a une interview d'Anne Bonnet qu'elle m'avait accordée au début d'année, et la collection continue, elle s'en va, mais la collection continue, et puis il y a des chroniques un peu plus longues sur le site. Et oui, il faut vraiment surveiller ce qu'ils font, parce que c'est à la fois des créations pures, comme le fait d'avoir appelé Gary Ferret qui a créé, c'est pas une adaptation, qui a créé une BD purement et simplement, un scénario, ou alors ils achètent les droits de certains titres qu'évidemment ne peuvent pas acheter, que ils ont un petit peu les miettes, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif de dire ça, parce qu'il y a...
Il y a des pépites.
Voilà, les DC et les Vertigo, c'est pas pour Ankama, mais ils trouvent des pépites parfois intéressantes. Voilà.
Ben c'est très bien. On va retrouver à la fois ces titres sur le site de l'émission et en même temps sur votre blog BD Polar. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Frédéric, et puis on espère s'entendre avant la fin de l'année. Voilà, et puis bon festival Noir sur la Ville approche.
Oui, exactement, on prépare ça. Eh bien, à bientôt alors.
À bientôt, au revoir Fred.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de notre émission. Donc, on va vous dire au revoir. On va vous souhaiter de très bonnes lectures. Voilà, chacun dans son coin avec un bon bouquin. Au revoir, Jacques.
Et avec Jimi Hendrix pour l'instant.